Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h02 sur RMC, RMC Story. On est de retour dans Estelle Midi avec Thibaut Texer, Thierry Moreau, Yaël Mellul et Fred Hermel avec vous, bien sûr, au 32-16 pour réagir sur ce sondage qui dit que 1 Français sur 2 estime que les chômeurs sont responsables de leur situation. D'accord ou pas d'accord? On attend également vos commentaires sur l'appli RMC. 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Stéphane Pedrazzi et on s'intéressera à la folie autour des jeux de société. Tout le monde veut son jeu de société. On verra lesquels sont les plus achetés en France. À 14h, le maire de Marignane qui veut expérimenter le port de l'uniforme et le chant de la Marseillaise à l'école primaire. Bonne ou mauvaise idée? 14h30, RMC s'engage pour vous. Et Élise Dangean qui va tenter d'aider Yann. Yann qui a subi une arnaque au bon de paiement dans un bureau de tabac. Une sombre affaire. Et puis, on ouvrira peut-être le coffre RMC avec plein de belles choses dedans.
Coffre de Noël, Estelle. Oui, oui. Envoyez tout de suite coffre au 732-16 pour emporter un pack Nintendo Switch Mario Kart avec deux volants. Si vous êtes joueur, vous allez pouvoir ouvrir le coffre et gagner une PlayStation 5 plus un chèque pouvant atteindre les 2 500 €, soit une PlayStation classique mini. Pour cela, vous envoyez SMS en par SMS coffre au 732-16, coffre au 732-16. 3 SMS pour jouer, 75 centimes le SMS.
RMC Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser aux chiffres du jour dans Estelle Midi. Selon un sondage réalisé par l'UNEDIC, 50% des Français estiment que les chômeurs sont responsables de leur situation. Un chiffre en nette hausse, plus 7 points en un.
Il y a un problème d'employabilité. Employabilité.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a des gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu'ils ne peuvent pas travailler. Oui. Notamment, une partie de la jeunesse qui n'ont jamais vu leurs parents travailler, qui ne savent pas ce que c'est que se lever, aller faire un entretien. Je l'ai déjà dit dans une autre émission au Grande Gueule, je m'en étais pris plein les miches, mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens que l'on doit ramener.
C'est une minorité.
Non, il y a beaucoup de
les gens qui veulent pas se lever pour aller travailler.
Non, non, mais c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas les réflexes de pouvoir chercher un travail. Donc il y a des gens qu'il faut avant qu'ils soient employables, il faut les rendre employables.
D'accord.
Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas.
Ils sont loin du marché du travail.
Exactement.
Ouais, exactement. Ouais. Ça c'est sûr. Et on sera d'ailleurs avec Pierre-Édouard Magnan, notre chroniqueur, qui est également président du Mouvement national des chômeurs et précaires, dans un instant. Mais je voudrais qu'on prenne le témoignage de Guillaume, qui nous appelle de Noisy-le-Grand et qui est demandeur d'emploi. Justement, bonjour Guillaume.
Bonjour Estelle.
Bonjour.
Et j'imagine,
bonjour.
Guillaume, que vous avez été très choqué en voyant les résultats de ce sondage.
Je ne sais pas si je suis choqué. Moi, pour mettre dans le contexte, j'étais 12 ans chef d'entreprise, j'ai revendu mon entreprise.
D'accord.
Et je suis au chômage, je me suis inscrit au chômage. Alors moi, je n'ai pas le droit aux indemnités, hein, puisque j'ai été mandataire. Donc là, j'ai cotisé, mais je touche pas le chômage. Et c'est extrêmement dur de retrouver un travail, en fait. Actuellement, on dit qu'il y a beaucoup d'emplois, mais moi, je suis désolé. J'ai fait tous les sites. Hein. J'ai fait un compte LinkedIn. J'ai fait Indeed, Pôle emploi, Cadre emploi. Je postule, j'envoie énormément de CV, de lettres de motivation. Je fais des entretiens. Et j'ai pas énormément de retours. Et en plus, les retours que j'ai, c'est pour des emplois qui sont vraiment pas très bien payés, quoi. Donc,
parce que vous cherchez un boulot de cadre, j'imagine, Guillaume.
Bah ouais, de cadre. Mais moi, je me retrouve avec des propositions où, en tant que cadre, donc cadre journée, où on demande de travailler 50 à 60 heures par semaine,
ouais.
À des salaires entre, même pas 2500 euros brut, quoi.
Ah ouais, donc c'est ouais, pour un cadre,
euros,
ouais.
Même pas 2000 euros net. Alors, ce que je disais, c'est que quand on a un bon réseau et qu'on est bien coopté, on peut trouver des bons emplois. Mais quand le réseau fonctionne pas, moi je suis là et j'attends en fait.
C'est ça, en fait, il y a des secteurs, on ne parle que des secteurs en tension en ce moment, le bâtiment, la restauration, on a l'impression que, comme dirait Emmanuel Macron, il suffit de traverser la rue pour aller pour trouver du boulot. Mais c'est pas vrai dans tous les secteurs, et vous avez raison de le rappeler, Guillaume, quand on est cadre. Aujourd'hui, vous avez quel âge, Guillaume?
J'ai 40 ans.
Bon, vous êtes jeune encore.
Moi je suis. Ouais. Ah, merci, c'est gentil.
Ouais.
Moi, je suis de l'hôtellerie et la restauration.
D'accord. Ah oui.
Donc. Donc moi, je veux bien travailler en tant qu'encadrant. Ou même, j'ai entendu tout à l'heure Olivier Truchot qui disait qu'on pouvait trouver pour 3 500 euros un poste de serveur. Moi, si on me donne ce poste-là pour serveur, moi, je vais travailler demain, hein, sans aucun problème. Mais je suis désolé. Dans la restauration, on propose des salaires qui sont indécents, quoi.
Sont minimes, mais oui. Et vous avez raison.
Moi, j'ai travaillé toute ma vie le samedi et le dimanche. C'est pas un problème. Mais derrière ça, il faut de la rémunération. C'est pas possible, c'est autrement.
Mais oui, bien sûr, ça se paye. Le travail se paye. Et aujourd'hui, effectivement, les salaires sont trop bas. Mais ça, on le répète à longueur d'émission. Merci pour ce témoignage, Guillaume, en tout cas. Anne nous appelle de Calenzana, en Haute-Corse. Très jolie région également. Bonjour, Anne.
Bonjour.
Et vous aussi, Anne, vous êtes demandeuse d'emploi.
Bonjour.
Oui. Mais oui, moi, j'ai 54 ans et je cherche un emploi depuis 5 ans.
Dans quel secteur?
Dans le secrétariat.
D'accord.
Mais aujourd'hui, je suis prête à prendre tout ce que je trouve. Alors, j'ai trouvé des CDI dans le nettoyage industriel, puisque on en parle beaucoup sur votre plateau.
Mm-hmm.
On me propose d'aller travailler pour 20 minutes, qui me sont payées. On ne vous paye que les 20 minutes, donc 4 euros.
Mais non.
Et je fais 15 kilomètres. Voilà.
Okay,
et quand je demande à ce qu'on me paye l'heure et quitte à faire l'heure, on me dit non. Pôle emploi ne me fait pas beaucoup de propositions. J'ai eu chauffeur poids lourd. Puisque j'ai pas le permis, c'est difficile. Hein,
ouais. Vous pouvez faire une formation.
Non, pas de formation, parce que ça aussi, les formations Pôle emploi, merci, hein, on m'en a fait faire une. On avait juste oublié de me dire que si je commençais la formation en distanciel, je ne pouvais pas travailler à côté et on ne me versait que 300 euros par mois.
Ah oui, oui, donc évidemment, c'est embêtant.
Voilà.
Ouais. Non, mais c'est fou ce que vous racontez sur vos 20 minutes, Anne, mais c'est hallucinant, quoi. Hallucinant, vous n'allez pas être payé pour 20 minutes. Enfin, mais c'est aberrant
mais
ce que vous dites.
C'est comme ça que ça se passe. Et je pense que les gens, quand ils en parlent sur votre plateau, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de la situation, savent qu'il y a des demandes. Alors oui, moi j'ai refusé. Puisqu'on me faisait miroiter un 20 heures par semaine et qu'à la sortie, c'était que 10 heures et que je devais me déplacer 20 minutes. 20 minutes, payer le parc-mètre et payer l'essence et faire 15 kilomètres. Voilà.
Oui, évidemment, vous refusez et on le comprend, Anne. Et j'imagine que ça a dû vous blesser, le résultat de ce sondage.
Bah oui, énormément, parce que c'est pas de notre faute, quoi. C'est pas de notre faute.
Oui, j'entends
c'est votre faute de vouloir trouver ça. Du travail, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas et les gens en profitent, ils ne vous répondent pas. C'est incroyable. Ça, c'est une situation, oui. Moi, je ne pensais pas vivre des choses comme ça, quoi.
On va profiter de l'émission, Anne. Voilà, si jamais il y a un employeur qui nous écoute, qui est en Haute-Corse, qui est en Corse et qui a du boulot, dites-nous ce que vous cherchez exactement, Anne. On ne sait jamais. Voilà, on jette une bouteille à la mer, mais ça a déjà marché.
N'importe quoi.
D'accord. Anne, vous êtes dans le
salaire et que ça me permette de payer mes factures. Parce que voilà, pareil, il n'y a pas d'indemnité, il n'y a pas d'aide. Il ne faut pas croire. Moi, aujourd'hui, j'ai un petit boulot de vacataire, donc 3 heures tous les soirs en télétravail. Je fais des sondages, donc je touche 400 euros par mois. Voilà ce que j'ai.
Ouais, évidemment, ça ne suffit pas. Donc Anne, voilà, qui cherche n'importe quel boulot en Haute-Corse, dans le secteur de Calenzana, et qui a très très envie de travailler. Si vous êtes employeur, si vous cherchez, appelez-nous. Voilà, au 3216, envoyez-nous un message sur l'appli RMC. Et nous, on transmettra et puis on essaiera de faire le lien. Et puis vraiment, on espère que ça va marcher. Anne, on vous souhaite bon courage et merci pour ce témoignage qui était extrêmement touchant. On va essayer de trouver. Voilà, on a vraiment envie d'aider Anne parce que voilà, son témoignage il est poignant et je pense
c'est super émouvant.
Elle remet l'église au milieu du village.
Ça met l'accent sur le projecteur sur deux points. D'abord, il y a des métiers aujourd'hui où c'est difficile de trouver du boulot. Le secrétariat, maintenant les gens avec les applis, etc., gèrent leur emploi du temps, donc il y a de moins en moins besoin de gens dans des secrétariats. Donc il faut absolument que Pôle emploi propose des formations adaptées. Si on lui propose un emploi avec une formation poids lourd, il faut qu'elle puisse avoir la formation poids lourd, sinon elle ne va pas y arriver.
Enfin, si elle gagne 300 euros pour faire une formation poids lourd, comment
c'est pas normal. Qu'on lui retire ses aides parce qu'elle est rétribuée. C'est pas normal. Et puis aussi, l'emploi des seniors aussi. Je ne sais pas quel âge avait Anne.
54
ans. Au-delà d'un certain âge, c'est très compliqué.
Très
difficile. Voilà, il y a des situations de détresse et ce sondage, franchement, ne tient pas compte de ça. Il faut que les gens, il faut que ça leur rentre dans la tête. Il y a des situations terribles et Anne en est un exemple vraiment criant.
Et j'imagine que ça doit être blessant, effectivement, pour les chômeurs d'entendre ce genre de sondage. On est avec Pierre-Édouard Magnan, notre chroniqueur, bien sûr. Mais Pierre-Édouard, il est président du Mouvement national des chômeurs et des précaires. Bonjour Pierre-Édouard.
Bonjour Estelle, bonjour les amis.
Bonjour.
Salut. Eh bien Pierre-Édouard, on parle de votre cœur de métier, justement, les chômeurs. Et c'est vrai qu'on a été tous étonnés et choqués par ce sondage qui dit que 50% des Français pensent que les chômeurs sont responsables de leur situation. On vient d'entendre un témoignage très poignant il y a un instant là dans Estelle Midi. Pierre-Édouard, on est bien d'accord que voilà, les chômeurs ne sont pas responsables de leur situation, allez, en tout cas dans leur très 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 grande majorité.
Pas. Alors, je veux dire, moi, je suis choqué comme tout le monde, je ne suis absolument pas étonné parce que le message que, notamment, la classe politique dans notre pays, depuis de nombreuses années, envoie à fond les ballons dans tous les médias possibles, c'est que si les chômeurs ne travaillent pas, c'est que fondamentalement, ou ils sont trop indemnisés. Je vous rappelle qu'on vient de voter une réforme de l'assurance chômage qui va encore réduire l'indemnisation et la durée d'indemnisation des chômeurs. Donc, sous-entendu, le système est tellement confortable que, du coup, c'est pour ça qu'ils ne cherchent pas de boulot. On emploie régulièrement le fait de système généreux, hein, c'est un adjectif que, moi, vous imaginez bien, je combats, mais qu'on entend effectivement assez souvent. Et tu l'as rappelé, Steph, tout à l'heure, mais quand le chef de l'État lui-même dit à un gamin, il y a qu'à travers moi, je traverse la rue, je vous en trouve du boulot, évidemment, ça envoie ça comme message. Comme Dieu merci, dans notre pays, la majorité de la population active n'est pas au chômage. Quand on n'est pas au chômage, on a toujours le sentiment qu'on n'y sera jamais et que si jamais on y est, moi je vais m'en sortir.
Moi je
m'en sortirai toujours. Parce que les gens qui disent, la moitié des gens qui pensent que les chômeurs, s'ils n'ont pas de boulot, c'est qu'ils n'en cherchent pas, vous pouvez être sûr que si vous leur posez la question, évidemment, ça ne s'applique pas aux chômeurs qu'ils connaissent. Parce que eux, les gens qui connaissent, eux, ils cherchent. Vous savez, le fameux
bien
eux,
sûr.
Ils.
Oui, bien sûr.
Là, eux, ils cherchent. Et le témoignage d'Anne, il y a tout dans ce témoignage qui est absolument, hélas, formidable. Un, d'abord, il y a le fait que faut pas confondre les offres d'emploi et un emploi rémunéré dignement. ces 10 heures de nettoyage industriel avec des tranches de 20 minutes, c'est une offre d'emploi. Et ben, je vais vous dire que cette offre, elle soit non pourvue, comme le veut l'expression, moi je trouve ça parfaitement normal et j'espère qu'ils n'arriveront pas à la pourvoir parce qu'elle est scandaleuse.
Complètement.
Et derrière, on dit, ah bah oui, regardez, il y a plein d'offres sur le site de Pôle emploi et puis on ne comprend pas pourquoi il y a autant d'offres. Ben, voilà un excellent, et je cite souvent d'autres exemples que j'ai eu dans la vie où j'ai pu des fois inventer parce que je les connais. Cet exemple-là, je pense que je vais le garder parce qu'il est
tellement
révélateur de la réalité de ce qu'on appelle le marché du travail et qui est là, c'est de plus en plus le marché des chômeurs.
Non mais effectivement, moi je suis sidéré de savoir qu'il y a des offres d'emploi de 20 minutes et c'est très bien qu'Anne soit intervenue parce que justement, ça on entend une autre petite musique quoi et ça permet aux gens de se rendre compte de ce que peut être effectivement la situation des chômeurs. Il y a quand même des gens qui pensent que les chômeurs sont responsables de la situation. C'est le cas de Damien qui nous appelle de Dourdan dans l'Essonne. Bonjour Damien.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Et donc Damien, vous faites partie de ces 50% des Français. Donc voilà, je le disais, qui pensent que quand on est chômeur, c'est qu'on en est responsable.
Ouais, je pense qu'on en est en partie responsable. Alors après, ça dépend des situations. Je pense que ça dépend aussi des régions dans lesquelles on se trouve aussi.
Oui.
En tout cas, moi, je me suis retrouvé au chômage suite à un arrêt de travail de longue durée et une opération du dos. Mmh. Et du coup, j'ai retrouvé un travail assez rapidement. Et des offres d'emploi, j'en ai vu un paquet. Et j'ai eu plein de propositions, et j'ai eu plein d'offres. J'ai même eu le luxe de pouvoir choisir différentes propositions d'emploi. Donc,
des offres d'emploi. Mais vous êtes en région parisienne, Damien.
Je suis en région parisienne, oui. C'est pour ça que je dis que selon les régions aussi, ça peut varier.
C'est plus dur en Corse.
Selon l'âge aussi, je pense que ça peut varier. Évidemment, quand on s'approche de la retraite, c'est plus compliqué de trouver du travail. Mais en tout cas, moi, des offres, j'en ai vu un paquet.
Mais dans quel secteur, Damien ?
Alors, moi, je travaille pour un laboratoire privé. Je suis préleveur hygiéniste.
D'accord. Ouais, voilà. Donc, c'est pas un boulot non plus qui court les rues. Enfin, je veux dire.
Les labos ont bien fonctionné ces dernières années.
Il y a justement pas beaucoup d'offres et pourtant ça m'a pas empêché d'enchaîner les
contrats.
Les contrats et de trouver un travail. Donc non, si on cherche bien, on trouve. Faut pas s'arrêter qu'à Pôle Emploi, hein, parce que si on s'arrête qu'à Pôle Emploi, on va pas y arriver. Hein. Moi, j'ai eu un entretien. Sur plusieurs mois avec Pôle emploi, ils m'ont jamais aidé à chercher du travail. Je me suis inscrit sur d'autres plateformes, sur Indeed, sur
tout le monde parle d'Indeed d'ailleurs.
Il faut chercher, il faut y aller, hein. On trouve.
Mais c'est ça qui va pas. Alors merci pour votre témoignage, Damien. Mais c'est vrai, Pierre-Edouard Magnan, il y a un truc qui va pas. À chaque fois qu'on a des chômeurs qui nous appellent, ils pointent du doigt l'inefficacité de Pôle emploi. C'est quand même un problème.
D'abord, faut avoir un truc en tête parce que tout le monde croit que Pôle emploi est là pour trouver du travail aux chômeurs. Mais en fait, c'est faux. Et ce que je vous dis là, c'est pas une blague. Je tiens à préciser, c'est pas de l'humour. Parce que comme je suis pas, on me voit pas, je souris. Pôle emploi est là pour accompagner les chômeurs dans leur recherche d'emploi. Mais absolument pas pour leur trouver du boulot. Et c'est une,
ce que ça sert à quoi, alors? C'est
de Pôle emploi. Et derrière, en plus, en termes d'accompagnement, on voit bien que Pôle emploi est très souvent défaillant, y compris en termes d'outils. Juste un petit cas rapide, parce qu'il m'est remonté hier, et il colle, je savais pas qu'on se parlerait aujourd'hui. J'ai eu le cas d'une femme qui a été licenciée pour inaptitude le 31 juillet dernier, et qui, pendant son licenciement pour inaptitude, avait d'ailleurs eu la bonne idée de faire un bilan de compétences financé par la Sécu, dans un Greta, etc. Très bien. Déjà, elle a son premier rendez-vous début octobre, deux mois entre le licenciement et le premier rendez-vous. Et puis, cette femme dit, moi, je voudrais avoir un savoir bureautique parce que, en gros, je suis pendant un traitement de texte en tableur. Elle veut, comme licenciée pour inaptitude, il faut évidemment qu'elle se réoriente. Et donc, fin octobre, on se met d'accord et on l'inscrit. Formation qui devait débuter lundi dernier, réunion d'information lundi matin.
D'accord.
Et en fait, elle est arrivée, il s'était planté, il l'avait pas inscrit dans la bonne formation. Ils avaient confondu savoir numérique et savoir bureautique. Donc, du coup, évidemment, elle va pas faire la formation parce qu'elle s'est retrouvée avec des gens qui n'avaient rien à voir en termes de besoins. Et donc, on va encore reperdre pour cette femme encore deux ou trois mois avant de la réorienter, de la mettre sur la bonne formation. Mais pendant ce temps-là, évidemment, si on regarde sur l'extérieur, on voit des gens qui sont là, qui traînent au chômage, qu'est-ce qu'ils font, etc. Et ça, c'est aussi la réalité de ce qui existe. Alors, vous trouvez à Pôle emploi, comme partout, des gens très bien et des gens moins bien. On peut pas non plus demander à Pôle emploi d'inventer des emplois qui n'existent pas. C'est aussi la réalité.
Non, mais de faire le tri dans les offres, peut-être.
Mais l'accompagnement est une véritable difficulté. L'accès à la formation est une difficulté. Anne le disait très bien, si votre formation n'est pas explicitement validée par Pôle emploi, si jamais vous vous débrouillez par vous-même, vous trouvez une formation, une orientation, machin, eh ben, Pôle emploi le découvre, il va considérer que vous n'êtes plus disponible pour chercher du boulot et effectivement peut vous suspendre vos allocations.
Non, mais c'est...
Et que vous avez dit autonome, que vous vous êtes démené. C'est complètement contre-intuitif. Et du coup, quand c'est comme ça, vous imaginez les gens derrière, hein, ils veulent plus jamais entendre parler de formation, parce que voilà. Et du coup, vous les poussez surtout à dire, puisque c'est comme ça, moi, j'attends que Pôle emploi me trouve quelque chose. On est aussi dans des systèmes sur un certain nombre de personnes totalement pervers. Et puis après, sur la question de l'âge, je rappelle toujours, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois en plateau, mais ça va faire hurler tout le monde, un senior à Pôle emploi, ça commence à 45 ans.
Ah non, j'ai eu 46 hier, là, ça m'arrange pas, là.
Alors, bon anniversaire quand même,
Estelle. Mais merci.
Moi, j'ai encore que 44, donc je suis content, mais je commence à trembler un peu.
Ouais, trembler.
Oui, mais puis, regarde, c'est dans la tête des entreprises aussi qu'on est vu
bien
à 40
sûr.
Ans. C'est pas Pôle emploi. Enfin, je veux dire, c'est pas Pôle emploi qui décide.
Partout.
C'est
sûr
que les entreprises considèrent qu'à 45 ans, on est un senior. Donc, Pôle emploi ne fait que constater la recherche de ce que demandent les entreprises.
En fait, non, t'es pas un senior quand t'es dans l'entreprise, quand t'es implanté dans ton entreprise.
C'est quand tu en sors.
C'est quand tu en sors.
Mais quand tu te retrouves, quand on se retrouve un entretien avec quelqu'un qui est plus âgé que vous et qui vous explique que vous êtes un senior et que donc on peut pas vous recruter, ça fait quand même un peu bizarre.
Ah ben ça j'imagine.
Ça fait quand même
pas
très bizarre.
Pôle emploi, ce sont les entreprises qu'on.
En Allemagne on considère que c'est de l'expérience. En France on considère que c'est une tare d'avoir plus de 50 ans.
Et ça est vrai que ça change. Merci beaucoup en tout cas Pierre-Edouard Magnan. On va terminer avec le témoignage de Louisa qui nous appelle de Vienne, dans l'Isère et qui est en recherche d'emploi. Bonjour Louisa.
Oui, bonjour Estelle.
Bonjour. Et vous aussi, Louisa, vous avez du mal à trouver un travail.
Ah oui, effectivement. Comme j'en ai parlé avec Thomas, en fait, j'ai une expérience assez particulière parce qu'en fait, moi, j'ai dû arrêter de travailler il y a quelques années pour pouvoir m'occuper de mon frère handicapé.
D'accord.
J'ai pas eu le choix, ma mère est morte, donc mon frère handicapé, on n'a pas eu le choix.
Oui.
Donc j'ai dû arrêter de travailler pendant 4 ans, le temps de lui trouver un centre adapté.
Mm-hmm.
Et là, depuis un an et demi, quand je rencontre les employeurs, on me dit « Vous avez fait quoi pendant 4 ans ?»
Eh bien, dites ce que vous avez fait, Louisa. Enfin,
bah oui,
c'est respectable.
Mais oui, ça ne les intéresse pas.
Ils s'en foutent.
Et comment ça ne les intéresse pas que vous soyez occupé de votre frère handicapé, ça ne les intéresse pas?
Ah non. Qu'est-ce que... Enfin, en gros, c'est comme si j'avais eu un chômage de 5 ans et demi
C'est ça.
Mais c'est pas possible.
Ils considèrent que vous êtes en dehors du marché du travail et ce que vous avez fait ne compte pas, ne s'inscrit pas dans une carrière. Et je sais, c'est honteux, mais ce témoignage, je trouve ça poignant parce que ça existe tous les jours.
Alors que c'est une expérience, en plus, malheureusement, d'un mondial, enfin, en tout cas, c'est pas évident et c'est une capacité en plus que vous avez. Voilà, je veux dire.
Oui, c'est mieux de glander au bureau, ça, c'est sûr.
Mais voilà, c'est un.
De la même manière que lorsqu'une femme elle va s'arrêter pour s'occuper de ses enfants pendant un an ou deux, ça va faire un trou dans son CV.
Maintenant il y a le congé paternité qui fait que ça va peut-être équilibrer les choses. En tout cas, on l'espère. Mais écoutez, merci Louisa, et puis on vous souhaite bon courage pour votre recherche. Mais je trouve ça hallucinant ce que vous nous avez dit, et assez hallucinant tous les témoignages qu'on vient de recevoir dans Estelle Midi. Merci également à Pierre-Edouard Magnan qu'on retrouve dès vendredi. D'ailleurs, dans Estelle Midi, merci beaucoup Pierre-Edouard, président du Mouvement National des Chômeurs et des Précaires. On va terminer avec notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Les chômeurs sont responsables de leur situation, d'accord ou pas d'accord?
C'est très très serré et vous êtes contre ce sondage puisque 51% des personnes sur Twitter nous disent
beaucoup,
que vous n'êtes pas d'accord, 49% oui.
C'est le même résultat que le
sondage
de l'Unédic. On espère quand même que les témoignages qu'on vient d'entendre feront peut-être pencher la balance en faveur du non. Dans un instant, le zapping RMC. Alors là, gros carton rouge pour Elisabeth Borne. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a vapoté. Elle a vapoté dans l'Assemblée alors que c'est interdit. Voilà, je vous demanderai ce que vous en pensez. Est-ce que vous comprenez le discours du gouvernement? Parce que on nous dit attention, coupure d'électricité, mais hier Macron dit oh là non, pas de coupure d'électricité. Bon bref, on n'y comprend plus rien. Et puis on parlera également de la victoire du Maroc hier en qualification, pardon, pas victoire, qualification du Maroc pour les quarts de finale.
Mérité.
C'était incroyable. La Coupe du Monde. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi jusqu'à 15h. Il est 13h31 et c'est l'heure du zapping, le meilleur d'RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commenter tous les meilleurs moments d'RMC ces dernières 24 heures en compagnie de Thibaut Texer, de Thierry Moreau, de Yael Mellul et de Fred Hermel. Et on va commencer tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. La première ministre, Elisabeth Borne, manque-t-elle d'exemplarité? Hier, elle a été prise en flagrant délit de vapotage au sein même de l'Assemblée nationale. Or, évidemment, vous le savez, la loi interdit le vapotage dans tous les lieux clos et collectifs. Une grande transgression, qui agace fortement Mehdi Guezard.
Non mais si c'est elle qui respecte pas les lois, mais qui va les respecter.
Bah voilà. Après, mais excuse-moi, Anaïs, les mecs qui veulent fumer sur le
quai. Excuse-moi, qu'elle est quand même addict. Non, excusez-moi.
C'est son problème. Anaïs, moi je suis addict. Je suis addict. Il y a quelqu'un qui est addict comme moi. Pendant 3 heures, je fume pas.
Je fume pas sur un plateau.
Et je vous allume une clope. Je vais vous dire quoi. Moi, je suis addict. Vous allez vous taire. Non, mais arrêtez. Elle est excuse. Premier ministre. C'est quand même la première ministre de France.
En plus, elle fait ça à l'Assemblée.
Elle fait ça devant tout le monde.
Fred Hermel, est-ce que vous êtes scandalisé par cette transgression?
Alors, j'ai mon niveau de scandalisation, il est un peu plus élevé quand même.
Oh bah c'est non, je ne trouve pas, non.
Pas non plus.
Vous êtes scandalisé pour beaucoup moins que ça d'habitude.
Non. La même, j'aime beaucoup moins la même Elisabeth Borne. C'est dur à dire Elisabeth Borne, quand elle se vantait de fermer les centrales nucléaires. Ça, j'aime beaucoup moins. Là, c'est totalement anecdotique. Faut quand même pas.
Ah d'accord, mais dans ce cas, elle avait qu'à s'allumer une clope.
C'est un
être humain. Mais il
n'y
a aucun problème.
Voilà, oui. Excusez-moi.
Et puis qu'elle fume un joint, si
tant qu'on est. Être Premier ministre. C'est quand même un boulot très compliqué. Les questions au gouvernement.
Et donc elle a le droit de transgresser la loi.
Non, mais à un moment elle a eu besoin de sa petite dose de nicotine. Bon voilà.
Mais c'est pas dramatique non plus pour les autres Français. Et puis dans ces cas-là. Je ne fume pas, mais j'ai qu'à aller fumer au restaurant parce que j'ai fait un boulot difficile.
De voir des politiques qui restent des humains, tu vois. Donc oui, c'est pas terrible, mais faut pas en faire un scandale.
Il y a une médule.
Alors, c'est sur, en fait, le principe, voilà. Oui. C'est sur le principe, qu'une une première ministre se doit de respecter la loi.
Mais oui.
C'est pas compliqué, quand même. De la même manière que lorsqu'elle était venue, il y a quelques jours, nous dire à l'Assemblée qu'il fallait que tout le monde recommence à porter le masque et qu'elle le disait sans masque.
Mais bien sûr.
C'était un problème, tout de même. Il y a un principe, c'est le principe d'exemplarité. Voilà. Donc, un ministre, un premier ministre, une première ministre se doit d'être exemplaire, de montrer l'exemple, surtout quand il s'agit de respecter la loi.
Mais oui,
t'as jamais mis un chewing-gum sous la table, toi?
Non. Et alors, t'es premier ministre? Ça n'a rien à voir.
Mais
elle doit montrer l'exemple, enfin.
C'est pas illégal.
C'est une question de principe, voilà.
Oui,
alors, c'est vrai que dans l'absolu, aller vapoter deux secondes, c'est pas dramatique. Vois, enfin. Comme une gifle donnée à sa femme quand on la guide.
C'est pas dramatique.
Ça va, c'est pas grave.
Non.
Et en fait, c'est grave, parce que on ne respecte pas la loi. Voilà. Et donc, quand on vapote dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, on ne respecte pas la loi. Point barre. De la même manière qu'elle avait invité des gamins à Matignon, et elle vapotait tranquille devant les gamins. Alors là, mais niveau exemplarité devant des gamins,
excusez-moi, Thierry Moreau, elle est première ministre.
Oui,
c'est la loi.
Alors...
Fred disait un chewing-gum sous la table. C'est pas illégal de mettre un chewing-gum sous la table.
Non, c'est
illégal. C'est illégal de vapoter dans un lieu clos et notamment à l'Assemblée nationale.
Je pense que si elle a une séance un peu longue et qu'elle ne peut pas passer de sa dose de nicotine, il y a ce qu'on appelle des gommes de nicotine. Les gens, par exemple, qui font souvent des voyages en avion et qui sont très longtemps en avion et qui sont addicts au tabac, prennent des gommes de nicotine pour justement avoir leur dose, pour être arrivés à peu près normalement parce qu'ils ne peuvent pas fumer. Elle pourrait très bien faire ça. La présidente de l'Assemblée pourrait juste lui expliquer, Madame la Première Ministre, c'est interdit de vapoter dans cette enceinte. Est-ce que vous voulez bien arrêter de vapoter? Ça serait juste le respect du règlement de l'Assemblée.
Ça peut-être durer 5 secondes.
Ce n'est pas un scandale, mais en termes d'image que donne, c'est désastreux. Après, je voudrais quand même juste, on ne peut pas mettre sur le même plan une histoire de vapotage et une vie
de Ce n'est pas du tout ce qu'elle a dit.
C'est ce que tu as fait. C'est impossible.
Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est l'histoire de mettre un coup de canif sur un principe. On réécoutera. Et je vous dis que c'est pas du tout ce que j'ai
tu
fait.
Tu dis c'est un coup de canif. Et ça, c'est pas possible.
Moi, je suis une très grande fumeuse. Ben, je fume pas pendant 3 heures. Je vais pas sortir non plus une clope électronique. Si je sortais une clope électronique là et que je commence à vapoter, qu'est-ce qui se passe?
Pendant la pub?
Non, pendant l'émission.
Pendant la pub, je sais.
C'est pas première ministre.
Ça
change beaucoup. Alors, si tu es présent dans les médias.
Dit sur le plateau que c'est interdit. Donc,
c'est interdit.
Ça ne nous gênerait pas, mais comme c'est interdit, vous ne le ferez pas.
Absolument.
Parce que je serai obligée
je respecte
de
la loi. C'est interdit. Je ne le fais pas. Point barre. Hein. Voilà, c'est tout. Hein.
Apolline Matin, ce matin, comprenez-vous le discours du gouvernement? Ça fait plusieurs jours que l'on nous fait comprendre que des coupures ciblées d'électricité auront lieu. Hier, Emmanuel Macron s'en est agacé et a demandé que s'arrête ce discours de peur. Mais pour Mathias Tavel, député LFI de Loire-Atlantique, le gouvernement n'est pas clair et doit prendre ses
ses responsabilités.
Quand on est dans une situation de crise, la première des paroles qu'il faut avoir, c'est des paroles constantes et stables. Là, on a un zigzag permanent. On l'a eu déjà sur les masques au début de la crise Covid. Là, on l'a sur les coupures. Il y en aura, il n'y en aura pas. Il faut en avoir peur, mais pas trop. C'est encore plus inquiétant. Au contraire, on a l'impression que le gouvernement et le président naviguent à vue. S'il y a des coupures, ce sera des coupures Macron. Parce que c'est ce gouvernement et ce président qui n'ont pas fait les efforts sur la sobriété, qui sont en retard sur le développement des renouvelables. Donc, ils sont 100% responsables des coupures s'il y en a.
Des coupures Macron, celle-là je ne l'avais pas encore entendue.
Le renouvelable à notre secours, les éoliennes qui ne fonctionnent pas et le solaire qui est à zéro en ce moment, c'est n'importe quoi. Non mais juste, il faut ramener les choses. Dans votre lancement déjà, quand vous parlez de coupures auxquelles il faut s'attendre, non. Chacun a un rôle. Enedis, RTE, EDF, ils doivent bosser en ce moment 24 heures sur 24 pour que, évidemment, éviter les coupures. Deux, le gouvernement, son boulot, c'est de prévoir des scénarios au cas où il y aurait des problèmes de tension. La population, elle, on lui explique que plutôt que de mettre son lave-vaisselle juste après le dîner à 19h30 ou à 20h, il faut peut-être le mettre à 22h, ce qui est quand même pas un effort considérable.
Il faut avoir un programmateur.
Avec une alerte qu'on a plusieurs jours à l'avance. Et enfin, le chef de l'État, il est là pour rassurer tout le monde. Chacun
il nous a
doit
bien
faire,
rassuré, là.
Chacun doit faire son travail. Il faut arrêter cette parano sur les coupures. Il n'y aura pas de coupure cet hiver.
Enfin, qu'est-ce que vous avez dit l'inverse. Mais non, mais... Enfin, le patron d'RTE nous dit qu'il y aura des coupures.
Mais c'est le côté anxiogène qu'il faut arrêter. Que le gouvernement prévoit des scénarios, c'est son boulot. S'il ne le faisait pas, on lui tomberait dessus à bras raccourcis.
Il ne peut pas nous dire. En fait, le gouvernement.
Mais tout se sait. Vous savez bien que s'il se passe quelque chose au sein du. Mais enfin, s'il y a la moindre chose qui se passe au sein du Conseil des ministres, dans le quart d'heure qui suit, ça se sait dans les journaux, avec les réseaux sociaux.
Non, là, c'est sur les plateaux télé, c'est des interventions, oui. c'est pas des fuites. Moi, quand j'entends
parce
des ministres.
Parce que le gouvernement prévoit, il est transparent.
Moi, quand j'entends des ministres, quand j'entends coup sur coup, le maire, Attal, Marlène Schiappa, qui viennent nous dire à nous, les Français, vous devez faire des efforts par rapport aux coupures d'électricité, il y a une responsabilité collective. Pardon, excusez-moi, mais juste non, en fait. Moi, je suis pas responsable des problèmes d'électricité en France, que le gouvernement, il est là pour nous préserver, il est là pour nous protéger.
L'effort qu'on te demande, c'est de décaler ton lave-vaisselle à 22h. Est-ce que c'est un problème ?
Ça peut être un problème pour certains d'avoir des ascenseurs qui ne sont pas en marche. Oui. Ça peut être un problème pour certains de ne pas avoir de téléphone. Ça peut être
mais il n'y aura pas
Mais Thierry, c'est dingue.
Mais qu'est-ce qu'on nous a dit l'inverse, en fait ?
Voilà.
Écoutez, moi, je suis une citoyenne lambda. Moi, je regarde les infos. Moi, j'ai écouté en direct le porte-parole d'Enedis nous dire, il a dit les yeux dans les yeux, les commentateurs qui étaient à côté, ils étaient absolument sidérés.
Quand
il est sorti cette histoire là des gens sur respirateur quand qui n'était pas une priorité et qu'en gros qui se démerde en fait.
Il s'est fait ramasser dans l'heure qui a suivi.
Le président il a pas juste ramassé le porte-parole d'Enedis, il a aussi recadré son gouvernement, d'accord? Parce que son gouvernement il a eu des propos extrêmement anxiogènes. C'est eux qui nous angoissent.
Mais pour le problème c'est le ton employé par les ministres et par le président. Parce que le gentil dans l'histoire, c'est le président qui engueule ses ministres. Alors que, qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? Et là, je reprends ton discours. C'est que s'il y a des coupures, ça sera la faute
des
Français.
On prépare la culpabilisation des Français.
C'est ça,
je suis d'accord. Absolument.
C'est exactement ça.
S'il y a des coupures, ce sera de votre faute. Voilà.
On vous avait dit.
Exactement.
Il fallait pas mettre le chauffage,
Gouverner, c'est prévoir.
Gouverner, c'est assumer, reporter la responsabilité de ces échecs sur le peuple.
Apolline Matin, ce matin, les traditions victimes de la sobriété énergétique, tiens justement, pour cause de maîtrise de leur budget, de nombreuses villes de France ont décidé d'annuler la traditionnelle cérémonie de vœux de début d'année. Une économie avant tout symbolique pour Philippe Buisson, maire de Libourne en Gironde.
Les vœux m'apparaissaient être une dépense qui pouvait être économiser, c'est de l'ordre de quelques milliers d'euros, de l'ordre de 8000 euros, mais on est dans l'ordre du symbole. Voilà, c'est 8000 euros d'économie au moment où tout le monde doit faire des efforts.
Et voilà, plus de cérémonie traditionnelle de vœux de début d'année. Il n'y aura plus de banquet gratos, on ne pourra plus aller s'endormir. Tout se perd, quoi.
Non, mais il faut arrêter avec ça. C'est-à-dire que les politiques, on parle souvent des ministres, des politiques très connus, mais on voit que ce mal de la communication du message, etc. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Se ressent à tous les niveaux de la responsabilité des élus. Quoi.
C'est vrai, vous allez à la cérémonie de vœux de votre commune, vous ?
Bah, moi, quand j'étais dans mon petit village, oui. Là, dans le 15e, j'espère être invité.
C'était pour manger du foie gras.
Non, mais dans mon petit village, on n'avait pas les moyens de foie gras. Non, mais franchement, il faut arrêter. Ça coûte pas 8000 euros, quoi. Enfin, faut...
bah, peut-être que lui, il l'a fait payer.
Alors, dans ce cas-là, peut-être qu'il donnait un peu trop de saumon et de foie gras. Mais tu peux faire un verre avec un petit verre de Bordeaux. Il faut soutenir d'ailleurs les producteurs, on en parlait hier.
Et consommer avec modération.
C'est-à-dire que simplement, tu peux réduire. Non, mais le truc, c'est le symbolique. C'est-à-dire que le mec, il a foutu un coup de pub. Et d'ailleurs, la preuve, ça marche. Parce que ce maire, qui n'est pas le maire d'une grande ville, eh ben, on en parle chez Estelle Midi. Il est content
pour manger du pâté errance et puis boire un mauvais vin. Franchement, s'il n'y a pas de vœux, moi, je m'en fous.
Mais on peut faire une cérémonie sans en réduisant ce qu'il y a à manger.
Est-ce que les gens vont encore à la cérémonie?
Mais non,
dans les villages, oui, parce que c'est le lien social et tout. Tu es dans les petits villages, il n'y a pas forcément beaucoup d'événements.
Oui, il y a peu de jeunes qui voient ça. C'est quand même un truc.
Parce que moi, je suis plus jeune, c'est ça?
Non, c'est pas ce que je veux dire, mais vous avez des côtés un peu ringards, Fred. On ne va pas se.
Old school, on va dire.
Oui, un peu passé, oui, un peu.
Non, je suis conservateur. Je veux conserver une certaine idée de la France.
Oui, c'est parce que vous conservez, c'est pas le pâté qu'on mange au 1er janvier qui va faire que la France reste la France, excusez-moi.
Mais là, je reproche le mini-coup politique d'un petit maire qui s'est donné de la pub.
C'est plein de maires qui font ça.
Oui,
vous y allez, vous y allez, mêlu, là, ces cérémonies, non?
Non, je n'y vais pas.
Bon, j'espère être invité à celui de la mairie du 15e. Voilà. Madame Evren, j'ai oublié le nom du maire, mais je connais Agnès Evren, mais qui est adjointe. Mais...
On va terminer ce zapping avec la sensation hier soir. L'intégrale Coupe du Monde sur RMC, la très belle victoire du Maroc en 8e de finale. C'est pas une victoire, c'est une qualification. Après cette qualification, les Lions de l'Atlas ont défilé sur les Champs-Élysées et leurs supporters sont très confiants pour la suite, à l'image de Mokhtar rencontré après le match par nos reporters.
C'est que le début, personne nous attendait, mais on est là. Et on va continuer d'être là parce qu'en fait, on a la dalle et parce qu'on est soudés. On a un coach, il est énorme. On a un gardien, il est énorme. On a une équipe, on a un peuple. On va tout faire pour revenir et aller battre toutes les équipes qu'il faut.
Alors Fred, je sais que voilà, vous êtes amoureux de l'équipe d'Espagne, mais hier l'équipe d'Espagne est tombée face au Maroc, mais oh là, qu'est-ce que c'était beau.
Ce que j'avais prévu, c'est que l'équipe d'Espagne n'est pas bonne du tout, et surtout les Marocains ont mis beaucoup plus de cœur et d'envie, et donc d'un point de vue footballistique, c'était pas génial, mais l'émotion qui a été mise me paraît très bien. Puis je suis content parce que j'ai beaucoup d'amis au Maroc, donc je suis très heureux pour eux.
Voilà, et c'était énorme, mais c'était une belle émotion dans cette Coupe du Monde, le Maroc qualifié pour la première fois de son histoire pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Il n'y a pas de match pendant deux jours, je sais pas ce qu'on va faire là. Je sais pas ce que je vais faire ce soir, je m'étais habituée.
Je t'invite si tu veux, si tu veux, je te fais manger.
Non mais j'ai d'autres trucs. Dans un instant, on aura Stéphane Pedrazzi, la Minute Conso, et Stéphane qui va nous parler de la folie en ce moment autour des jeux de société. Tiens, vous nous direz, si vous jouez aux jeux de société, je vois Thierry Moreau faire la moue, mais en fait les jeux de société c'est la vie, Thierry.
Oui, mais moi j'étais enfant unique, donc je n'ai jamais pu jouer aux jeux de société.
Vous avez eu des parents, vous n'étiez pas à la DAS.
Ils jouaient pas avec moi, mes parents, je suis désolé. Donc j'ai lu, j'ai écouté de la musique, j'ai fait beaucoup de choses, mais j'ai jamais joué aux jeux de société et j'ai pas joué. Et ça manque parce que mes enfants me le réclament et je le fais pas. Voilà.
C'est génial.
Tu m'accuses, mais en fait, mais
excusez-moi, je n'avais pas la télé quand j'étais petite, je n'avais pas cette joie. Je n'avais que les jeux de société et la lecture. Excusez-moi. Oui, mes parents jugeaient que la télé abêtissait les masses. Écoutez, c'est comme ça.
Exceptionnel.
La revanche sur la vie, ça.
Je vous raconte ma vie, tout ça est formidable. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
49 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi et c'est le moment de parler conso avec Stéphane Pedrazzi.
RMC, Estelle Midi,
la Minute Conso.
Et Stéphane, on va parler d'une énorme tendance aujourd'hui en France. Alors, c'est pas une nouvelle tendance, mais c'est une ancienne qui revient à la mode et c'est celle des jeux de société qui ont de plus en plus la cote.
Ouais, c'est incroyable. Il se vend un jeu de société chaque seconde en France. Près de 30 millions de boîtes vendues l'an dernier, 13% de plus qu'en 2020. Sachez que la France est le premier marché européen des jeux de société. Premier devant l'Allemagne et l'Angleterre. Il paraît que c'est une conséquence de la crise sanitaire. On a retrouvé le besoin d'être ensemble, de jouer ensemble, de rire ensemble. Et depuis le Covid, il paraît que les personnes âgées de 15 à 40 ans jouent autant aux jeux de société qu'aux jeux vidéo. Et en plus, cette année, ils vont avoir un gros avantage parce qu'en cas de coupure d'électricité, l'avantage du jeu de société, c'est que ça fonctionne sans électricité.
Oui, enfin, s'il fait noir dans ta pièce, dis donc, pour jouer aux jeux de loi, ça va être pratique.
Oui, c'est vrai.
On joue à quoi ? Quels sont les jeux les plus populaires ?
Alors, ça peut être des grands classiques type Monopoly, Cluedo, Scrabble, soit des choses un peu plus subversives. Ça, c'est la grosse tendance du moment, comme Blanc Manger Coco qui fait un carton depuis quelques années. C'est l'une des meilleures ventes en France. Et d'ailleurs, pour s'adapter à cette demande un peu subversive de la part des joueurs, certains classiques ont été revisités. Saviez-vous qu'il existe une version tricheur du Monopoly ?
Mais ça, c'est mon coup de gueule. Excusez-moi, je ne supporte pas les... Non, mais... Un jeu, c'est un jeu. C'est-à-dire que moi, le Monopoly avec les éditions des villes, etc. Le Monopoly, c'est Paris. C'est comme
oui,
ça.
Oui, mais bon, mais non, les villes.
C'est pas possible. Avec des éditions limitées, des nouveaux jeux, des machins où on rajoute une règle. Mais c'est insupportable.
Mais le Monopoly, la ville originale, ça n'est pas Paris.
Et alors ?
Bon.
On a joué avec... Ah ben, c'est quoi ?
Je ne sais pas. C'est une ville
bon,
bah,
voilà. Bon, bah, on va pas jouer avec Manchester. Tu vois ce que je veux dire ? La ville en France, la ville du Monopoly, c'est Paris.
Mais il y a de très belles villes. Regarde le Havre.
Tu rajoutes des règles et tout. Et c'est insupportable.
Je suis d'accord.
Bon. Donc, en tout cas, on change pas les villes, mais on change les règles du Monopoly dans la version tricheur. Alors, on t'encourage, par exemple, à sauter des cases, à pas payer tes loyers, à voler de l'argent. Il y a même des cartes avec des objectifs de fraude. Donc, ça peut être un peu rigolo si t'en as marre de la version classique. Puis surtout, si t'as un ami qui fait de l'optimisation fiscale, ça peut être une idée cadeau géniale pour Noël. La tendance, d'une manière générale, donc, ce sont les jeux un peu plus corrosifs, un peu plus subversifs. Mais il existe généralement des déclinaisons. Donc, typiquement, ce que tu n'aimes pas. Oui. C'est-à-dire une version mainstream où on peut jouer avec les enfants, puis une version un peu plus pour adultes. L'autre tendance, ce sont les jeux qui ne durent pas trop longtemps pour pouvoir, par exemple, jouer au moment de l'apéritif avec des cartes. Et c'est pour ça que Monopoly a lancé une version speed, une version qui se termine en 20 minutes.
Ça ne va pas du tout.
Tout ce que tu adores.
Bah oui, il suffit de bloquer avec les gares. Enfin bon, bref. Mais quels sont les jeux qui ont été le plus vendus l'an dernier ?
Alors, tout dépend. Si tu regardes en chiffre d'affaires ou en nombre de boîtes, dans le top 10, on trouve bon quelques classiques, évidemment, comme le Monopoly, pas mal de jeux subversifs et des franchises. Parce qu'évidemment, la puissance des franchises fait qu'on les achète. L'an dernier, le numéro 1 en France en termes de chiffre d'affaires, c'était Pokémon, le jeu. Mais attention, plus gros chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire qu'on y joue forcément à la maison. Ah oui. En tout cas, c'est très difficile de se faire une place sur ce marché. Il se lance entre 1000 et 2000 jeux de société nouveaux tous les ans en France, sachant qu'une dizaine à peine va réussir à percer. Et les professionnels du secteur nous expliquent que c'est parce qu'il y a toute cette offre, toutes ces nouveautés que la France reste le numéro un des jeux de société. Autre chiffre, sachez qu'on les achète surtout en fin d'année. 60% des jeux s'achètent sur les trois derniers mois de l'année.
Quels sont les jeux de société les plus populaires dans le monde ?
On va demander à Thierry, il adore les jeux de société. Le jeu le plus populaire ?
Je sais pas. Moi, je joue au Mille Bornes.
Oh, j'adore.
Ah, c'est génial.
C'est Atlantic City, la première ville pour laquelle le Monopoly a été fait.
On n'a pas du tout envie de jouer avec Atlantic City.
On veut rue de la paix, nous.
Voilà, exactement. Moi, je prends les bleus. Tout
donc, Monopoly.
Les bleus ciel. Oui,
Monopoly. Jeu le plus vendu depuis sa création. 275 millions de boîtes depuis 1936. Suivi du Scrabble, 150 millions de boîtes.
Scrabble.
Vous connaissez ? Génial, vous avez oublié ça. Votre Scrabble. 150 millions. Uno également. Tiens, c'est pas loin. Le Uno, c'est pas loin du...
C'est génial, le familial.
150 millions. Cluedo, 100 millions de boîtes. Trivial Pursuit, lancé en 79, qui arrive en 5e position.
Oui, mais quand on a fait toutes les questions, Trivial Pursuit, on s'ennuie.
C'est vrai, et c'est pour ça qu'il y a des versions dérivées, avec d'autres
des nouvelles questions.
L'autre tendance, ce sont les jeux de société d'occasion.
Alors ça, c'est la bonne idée la bonne idée écolo pour la fin de l'année, surtout qu'ils coûtent assez cher, en fait, ces jeux.
Mais on n'est pas sûr qu'ils soient complets.
Alors non, il faut qu'ils soient complets. Quand on te vend un jeu d'occasion, il faut qu'il y ait toutes les cartes, tous les pions. Ils s'achètent généralement 30% moins cher que le jeu neuf. Et si vous avez des jeux que vous n'utilisez plus à la maison, il y a des enseignes qui les reprennent. On en avait parlé, Ocas, par exemple, les reprend. Vous achète le jeu la moitié de son prix original et ils le revendent avec 30% de réduction.
Ça, c'est pas mal. Un petit coup de cœur, tiens, Stéphane.
Alors, dans la même veine que Blanc Manger Coco, qui est jeu subversif. Alors, Blanc Manger Coco, tu as des morceaux de phrases à compléter. Alors, par exemple, tu as débranché mamie, toucher l'héritage, et on te demande de faire une phrase.
Donc, débrancher mamie, ça permet de toucher plus vite l'héritage.
Par exemple, voilà. Alors, dans la même veine, il y a un jeu qui s'appelle Les Jonquilles. C'est un jeu où il faut juger tous les gens qui nous énervent au quotidien. C'est absolument pas politiquement correct. Alors, la version mainstream, celle avec, pour jouer avec les enfants, il y a des phrases comme les fonctionnaires qui font des pauses café d'une heure trois fois par jour. Après, il faut les juger. Les gens qui disent « je ne suis pas raciste, mais... » Ça aussi. Les gens qui pètent juste avant de sortir de l'ascenseur. Les gens qui surveillent ton écran d'ordinateur au bureau. Ça, c'est la version soft. Après, il y a une version...
Et les premiers ministres qui vapotent, c'est où ?
Ça pourrait être dans la version mainstream. Après, la version trash, je suis sûr que tu vas adorer, Fred. Il y a les gens qui font un deuxième enfant parce que le premier est raté. Les gens qui n'attendent pas Noël pour fourrer la dinde.
Ah, bravo.
C'est très, très, très chic.
Ça, j'aime bien.
Il y en a un, je ne sais pas trop si on peut le dire. Je vais laisser peut-être Estelle le lire.
Non, certainement pas. Non. Bon. Moi, voilà. Je joue au Monopoly, donc bon. Et au Trio Mino. J'ai une passion pour le Trio Mino.
Et alors, t'es pas dans la tendance. Je suis désolé. La tendance, ce sont ces jeux subversifs où on peut dire du mal des gens.
Je n'aime pas du tout. Pardon, mais enfin, on va pas jouer avec ça avec les enfants. Enfin, on va pas dire ce genre de truc avec les
c'est
enfants.
C'est pour ça qu'il y a des versions déclinées.
Bon, écoutez, en tout cas, les jeux de société, on le vend en poupe, et ça, c'est une bonne chose. On parle de quoi demain ?
Demain, ce sera Paul, il parlera du vrac. Tu sais, les ventes en vrac dans les magasins.
Sûr que ça marche.
C'était très, très, très à la mode avant le Covid. Ça s'effondre littéralement. On trouve plein de bestioles dans le vrac.
Ah, ça me dégoûte. Il faut toujours avoir son sac et son bocal.
Des mythes alimentaires et des rats. Il vous parlera de tout ça demain.
Bah, déjà, j'avais pas envie d'y aller. Bah, super. Merci.
Des surmulots.
Merci beaucoup. Stéphane, allez, dans un instant, on parlera de l'idée du maire de Marignane. Il souhaiterait expérimenter le retour de l'uniforme ainsi que le chant de la Marseillaise deux fois par jour à l'école primaire. Bonne ou mauvaise idée ? On en parle dans un instant sur RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.